Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama en ce mercredi 22 juin, lendemain de la fête de la musique, à laquelle nous avons tous plus ou moins bien survécu. Nous avons quand même perdu Vincent en route. Donc bonjour Martin.
Bonjour Marine, bonjour à tous. Alors moi j'ai pas fait beaucoup la fête de la musique, j'ai préparé surtout l'émission de façon très studieuse, mais bon j'en ressens quand même les effets, donc voilà, cette émission sera un petit peu consacrée à la musique pour prolonger cet événement. Moi je vous parlerai rapidement de la bande originale de Orange Mécanique qui sort aujourd'hui dans les salles, toujours dans le cadre de la rétrospective Stanley Kubrick. Donc ce sera l'occasion de passer un petit peu de musique tirée de ce grand film de Stanley Kubrick. Et puis toi aussi tu nous parleras un petit peu de musique puisque tu chroniqueras un film avec Benjamin Biolay.
Oui c'est ça, pourquoi tu pleures ?
Voilà, et alors en fin d'émission, je vous parlerai des sorties de cet été, donc un petit agenda, des films que je n'ai pas encore vus, mais sur lesquels j'ai déjà des avis bien tranchés. Et je vais commencer tout de suite donc par présenter cette bande originale de Orange Mécanique. Alors, on le sait, Stanley Kubrick aime bien utiliser la musique classique dans ses films. Déjà, dans 2001, il avait refusé la partition originale qui avait été composée pour le film. Il avait préféré garder les morceaux temporaires qu'il avait utilisés pour le pré-montage, donc des morceaux de Johann Strauss, Richard Strauss, etc., et du Ligeti. Sur Orange Mécanique, il continue à utiliser la musique classique, c'est important puisque dans le roman qui sert de base au film, le personnage est déjà un fou de Beethoven. Et donc voilà, dans Orange Mécanique, nous entendons du Beethoven, du Purcell, du Puccini. Mais la petite chose à noter, c'est que ces morceaux ont été réorchestrés. Voilà, il n'a pas diffusé, comme c'était le cas dans 2001, les morceaux tels qu'ils étaient à la base. Non, il les a fait réorchestrer grâce à des instruments électronique par un célèbre ingénieur du son et compositeur, Wendy Carlos. À l'époque c'était Walter Carlos encore, mais aujourd'hui c'est Wendy Carlos. Donc voilà, il a utilisé ce compositeur a utilisé des vocodeurs, le célèbre synthétiseur modulaire de Robert Moog pour donner voilà aux morceaux utilisés dans Orange Mécanique un petit côté un peu SF, un petit peu expérimental. Donc voilà, cette musique traduit le bouillonnement d'émotions du personnage d'Alex et sert un peu de fil conducteur pendant tout le film. Je vous propose d'écouter tout de suite donc un premier extrait de cette bande originale. Il s'agit de la musique pour les funérailles de la reine Marie de Henri Purcell.
Thank you.
réveillez-vous, vous êtes sur Divergence FM, la fête de la musique est terminée. Voilà, vous pouvez prendre votre café. C'était un extrait de la bande originale d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, un morceau de Purcell réorchestré par Wendy Carlos avec le synthétiseur Moog. Alors on va passer à un film sorti maintenant il y a un bon petit moment. Et la semaine dernière, pendant que mes collègues nous parlaient, comme à leur habitude, de cinéma pop-corn formaté et de super productions hollywoodiennes, des films d'action bourrins comme American Translation, ou des comédies sentimentales sirupeuses comme Blue Valentine ou Une Séparation, eh bien moi j'ai pris le risque de vous parler de vrai cinéma d'auteur exigeant, cérébral, et de vous proposer une analyse socio-esthétique approfondie de la saga X-Men. Alors pour prolonger cet exposé érudit sur la représentation des mutants au cinéma, thème cher à Andrei Tarkovsky et David Cronenberg, je vous propose aujourd'hui de plonger dans l'univers de The Prodigies, le premier film d'Antoine Charéron sorti il y a quelques semaines. Alors The Prodigies, c'est un peu l'anti-X-Men, ou que se passerait-il si le professeur Xavier perdait le contrôle de ses élèves et que ces derniers finissaient par tuer et tout détruire sur leur passage grâce à leur super pouvoir ? Pour son premier long-métrage, Antoine Charéron adapte le roman culte de Bernard Lantéric, La nuit des enfants rois, publié en 1981. Un thriller que j'ai lu il y a bien longtemps, mais dont je garde plutôt un bon souvenir. Alors le film nous fait suivre le parcours de Jimbo Farrar, un authentique génie du genre à calculer la cohomologie d'une variété algébrique projective complexe à partir de ses sous-variétés au petit-déjeuner, et à passer le restant de la journée à discuter avec une intelligence artificielle de sa fabrication. Mais Jimbo n'a pas seulement la bosse des maths. Quand il était enfant, il pouvait manipuler les esprits des personnes ou des animaux et prendre le contrôle de leur corps, un pouvoir qu'il utilise pour la première fois sur ses parents tortionnaires qu'il pousse à s'entretuer. Et après cet acte traumatisant, alors qu'il est placé dans un hôpital psychiatrique, il est repéré par un vieil homme qui reconnaît en lui un enfant très spécial et qui lui conseille de ne plus se servir de son don. Plusieurs années plus tard, grâce à son mentor, Jimbo est devenu un grand gaillard, plutôt bien intégré dans la société, qui consacre son temps à rechercher d'autres personnes comme lui. Une quête qui ne rencontre pas vraiment de succès jusqu'au jour où 5 adolescents réussissent brillamment les tests qu'il a dissimulés dans un jeu vidéo sur Internet. Alors excité à l'idée de rencontrer et de réunir ces enfants exceptionnels, Jimbo met le doigt dans un engrenage qui va lui échapper rapidement et libérer une sauvagerie qu'il aurait préféré oublier. Alors côté adaptation, Antoine Charéron prend de grandes libertés avec l'histoire de Lantéric. Il introduit en particulier le fameux pouvoir qui permet de contrôler les autres, une capacité que les enfants rois du roman n'ont pas. Dans le livre, à part leur intelligence et une sorte de connexion télépathique qui les relie, les enfants n'ont rien de surnaturel et c'est cette apparente normalité qui augmente le suspense et l'angoisse qu'on ressent à la lecture. Dans le film, les petits prodiges sont clairement des mutants avec des super pouvoirs sortis tout droit d'un comic book Marvel, un choix qui se traduit par un récit orienté action et spectaculaire. Le scénario conserve malgré tout l'ambiance noire et malsaine du roman et Antoine Charéron prend même le risque de ne pas édulcorer les passages les plus violents. Le film s'ouvre sur une scène de maltraitance qui dégénère en meurtre. D'autres séquences basculent dans le gore et l'agression dans le parc électrise par son irrésistible progression vers l'horreur. Donc le film est interdit aux moins de 12 ans et s'adresse en fait plutôt aux ados et aux adultes qu'aux petits. Côté animation, on n'est pas devant Final Fantasy et l'équipe n'a pas fait dans le photoréalisme. Le film lorgne plutôt du côté des animés japonais ou du jeu vidéo. On pense souvent à Akira de Katsuhiro Otomo pour le scénario bien sûr, mais aussi pour une certaine démesure visuelle à la japonaise, qui n'est d'ailleurs pas toujours très justifiée. Le responsable du design, Victor Antonov, vient lui du jeu vidéo. Il a par exemple travaillé sur l'excellent Half-Life 2 des studios Valve. Et on sent que son expérience dans la cinématique vidéoludique a permis de faire passer certains défauts de texture. Il faut dire que la société qui devait s'occuper des textures du film a fait faillite en pleine production, ce qui a laissé l'équipe dans une belle impasse. Donc en ont découlé des décors parfois minimalistes et quelques polygones clignotants du plus bel effet. Cette faillite explique peut-être aussi certains placements produits assez voyants que Sony Ericsson, Audi ou Coca-Cola ont dû payer très cher pour renflouer les caisses. Alors à noter toujours côté technique que The Prodigy a été réalisé en partie avec la motion capture, donc la capture de mouvement, ce qui rend possible une animation plus fluide et plus réaliste des corps. Ça nous permet par exemple d'apprécier le travail d'un cascadeur chorégraphe qu'on connaît bien, Alain Figlars, qui avait travaillé sur Chrysalis ou pour Olivier Marchal et qui orchestre ici d'impressionnants affrontements par zombies interposés entre Jimbo et les enfants. Alors au final, The Prodigy s'avère être un bon divertissement pour qui ne sera pas trop regardant sur la précision des images. et sur une caractérisation des personnages parfois bâclés. Les grandes lignes du livre de Lantéric posent malgré tout un drame aux implications passionnantes et l'animation réserve quelques séquences mémorables, en particulier lorsque le graphisme évolue radicalement pour dévoiler le monde interne des enfants rois. Dans ces scènes, la couleur fait place au noir et blanc, les traits de mouvement apparaissent, comme dans les cases d'une bande dessinée, et les personnages se transforment en créatures de cauchemar. En quelques plans, Antoine Charéron et Victor Antonoff nous plongent dans un univers qu'on aimerait bien voir s'épanouir plus longuement, pourquoi pas sur la durée d'un court-métrage. Voilà, donc The Prodigies d'Antoine Charéron, que vous pourrez aller voir dans les multiplex en 3D.
Très bien, bon bah on va passer à un petit peu plus intimiste, un petit peu plus indépendant, un petit peu plus français, on peut le dire, avec Pourquoi tu pleures ?
Bon bah vas-y, dis-lui.
Me voilà, papa, je meurs. Et...
la prochaine fois que tu me verras, je serai en blanc. Je t'aime et je vais être très heureux.
Je vais pas taper trois tata Monique à mon mariage alors que j'en ai jamais rencontré une seule.
Bah va pour tata Monique.
Oui, mais c'est sûr, ça fera l'occasion. Hein.
Mais comment ça, Anna n'est pas là ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle a des angoisses.
Comment ça, elle a des angoisses ?
Jure-moi que tu te marieras jamais. Faut pas que tu te maries, hein. Jure !
Dis pas, putain, dis pas ça.
Tous les jours, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Tous les jours. Ce qui est compliqué, c'est de tenir.
Pourquoi tu t'es mariée, moi ?
J'avais le choix, tu crois ?
Oh, pardon.
Oh, putain.
C'est qui ?
C'est ma sœur.
Hey, mais arrête !
Je suis ta mère, j'ai le droit.
Tu me laisses pas toute seule, dis non.
Elle est où, là ?
Non, mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi, c'est bon, je gère.
Tu gères mon cul !
Est-ce que je peux te lire mon discours de témoin ? Non, vraiment, je peux pas.
Mais comment tu me parles ?
Parce que vous saviez, quand j'étais petit, je rêvais que mes parents crevaient pour que vous puissiez m'adopter, alors... Ah, mais t'aurais pas deux minutes à accorder à ton vrai fils.
Le DJ,
ouais.
Il lui propose Love Boat ou à la limite à Will Survive.
Will Survive, ça aura du sens.
Pourquoi tu pleures ?
Je pleure pas.
Mais si, il y a ta mère, pourquoi tu pleures ? So if you
really love me, toi, t'avais quoi comme pleurs ?
Quand ça ?
À ton mariage.
J'étais bien amusée à mon mariage.
On sait jamais plus.
Mais je me suis jamais mariée.
Bah voilà. Perhaps, perhaps,
perhaps. Donc dans Pourquoi tu pleures de Katia Lekovics. Lekovics. Benjamin Biolay se retrouve à quelques jours de son mariage avec de sérieux doutes et donc forcément quelques crises de larmes. Ce n'est pas sa future femme qui compte s'enfuir, mais lui qui se retrouve pris dans l'enfer des préparatifs et commence à s'interroger face à l'hystérie de sa famille et de ses amis sur le bien fondé de sa prochaine union. Pas de prémisse à la situation initiale ni de flashback, on se retrouve au cœur de l'action, tout autant noyé que le personnage principal dans les péripéties pré-mariage. Comment faire le plan de table ? Quelle fleur choisir ? Grain de riz ou pétale de rose ? Assailli de questions auxquelles il ne peut répondre et doutant surtout de sa volonté à s'engager, il se laisse submerger par le poids de l'événement, d'autant plus qu'il fait la connaissance d'une troublante jeune femme qui pourrait constituer un joli échappatoire. Le sujet n'est certes pas très neuf et... les interrogations existentielles du personnage semblent un peu rabâchées, mais c'est par son ton doux amer que le film séduit, le cynisme des dialogues couvrant toujours des vérités plus profondes que le film aborde sans pour autant plomber l'ambiance. Une comédie décalée dans laquelle Benjamin Biolay excelle, oui, n'ayons pas peur des mots excelle, parce qu'il n'y fait justement pas grand-chose. Pas vraiment débordant d'énergie ou de charisme, mais plutôt complètement paumé, il compose un personnage très lacrymal, qui rencontre donc une femme avant son mariage, situation classique, mais s'avère incapable d'aller à l'encontre de ses projets, à moins que ce ne soit même pas réellement lui qui ait choisi tout cela. Alors ça fait du bien, après le Paris en carton-pâte de Woody Allen, de retrouver un vrai Paris, bien gris, bien dépressif, peuplé de personnages gentiment barrés, comme seules les comédies françaises savent inventer. Emmanuel Devaux, c'est plus drôle qu'on ne pouvait le penser dans son rôle de sœur. Son mari, quant à lui, incarne un Parisien bobo beauf et la cohorte d'amis qui les entourent apporte tous à leur manière un charme supplémentaire qui empêche le film de tomber dans la banalité et les clichés. En bref, il n'y aurait donc vraiment pas de quoi pleurer, même s'il n'y a pas non plus de quoi se payer une bonne tranche de rire. C'est trop sympathique.
Voilà, donc pourquoi
tu pleures ?
Et ça
passe toujours au diagonal.
Voilà. Donc, film que... Il n'a pas de super pouvoir dans ce film, Benjamin.
Il chante même pas, c'est très décevant. À la fin du générique, il faut vraiment rester jusqu'au bout.
Donc on ne peut pas compter sur lui pour faire cette prolongation de la fête de la musique qu'on s'est engagé à faire dans Cinérama aujourd'hui. On va écouter un deuxième extrait de la bande originale d'Orange Mécanique. Je vous rappelle que le film sort aujourd'hui au Diagonale, ainsi que Shining et Barry Lyndon, deux films que vous pourrez aller découvrir ou redécouvrir sur grand écran. Donc ce deuxième extrait de la bande originale d'Orange Mécanique, un morceau très connu que vous allez reconnaître, il s'agit de l'ouverture de Guillaume Tell, de Puccini, de Rossini, pas Puccini, Rossini. On écoute. Voilà l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, extrait d'Orange Mécanique et réorchestré par Wendy Carlos grâce à des synthétiseurs, des vocodeurs et des phaseurs. Dans cette scène en particulier, l'image, Kubrick fait coller l'image à la musique en accélérant à outrance cette séquence mémorable. On laisse de côté un petit peu Orange Mécanique et c'est l'heure pour vous d'attraper vos agendas et vos crayons, puisque comme c'est la dernière émission de la saison, je vous ai préparé un petit agenda des sorties estivales.
Ah, quel bon film! Qui a dit ça?
C'était de la poudre aux yeux! Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non!
Oh, quel bon film!
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
Mais quel charme ce film d'époque, hein? Hein? Quel charme!
Et partez pas sans votre dossier de presse!
Les a priori de l'été, donc petit panorama non exhaustif et très subjectif des films qui vont sortir en salle cet été pendant que vous serez en train de vous la couler douce sur une plage à l'autre bout du monde. La comédie blonde à ne pas rater, le psychodrame français qui va séduire la critique, le blockbuster américain en 3D qui fera trembler les murs des multiplexes, le film d'horreur qui vous fera mourir de peur, bref, tout ce que cet été 2011 vous proposera de meilleur et de pire. Et on va commencer sans plus attendre avec les sorties d'aujourd'hui, et en particulier avec ce qui pourrait bien être le meilleur film de cette période estivale, j'ai nommé Balada Triste de Trompeta de l'espagnol fou Alex de la Iglesia.
Traje.
Balada Triste, c'est l'histoire de l'affrontement sanguinaire entre deux clowns, devenus frères ennemis pour les beaux yeux d'une acrobate, en pleine guerre civile espagnole. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alex de la Iglesia, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans sa filmographie, de Action Mutante à Un Crime Farpé, en passant par Mes chers voisins et Perdita Durango, pour voir en quoi ce nouveau film devrait casser la baraque et nous changer des téléfilms qui squattent nos écrans en ce moment. D'après ceux qui l'ont vu, le réalisateur est revenu à ses premiers amours, l'humour noir, les délires visuels et la démesure qu'il avait mis un peu entre parenthèses avec son précédent long métrage, Le moyen crime à Oxford. À voir. Donc parmi les autres films qui sortent en ce radieux mercredi, difficile de dire ceux qui seront déjà oubliés la semaine prochaine et ceux qui ne finiront dans les oubliettes du 7e art qu'à la fin du mois. La comédie française hilarante, adaptée du chef-d'œuvre de la BD, L'élève du Cobu, avec Elise Moon dans le rôle d'un gamin de 12 ans. Il joue le professeur. Dommage, parce que ça lui aurait bien été. Sinon, vous avez également Omar m'a tué, donc premier film de Christophe Ondelat en tant que réalisateur, dont on a déjà parlé dans cette émission. Ou encore Pater de Alain Cavalier, alors un film de science-fiction plutôt bien accueilli au dernier festival de Cannes, dans lequel des hommes politiques réfléchissent et s'expriment dans un français correct. Pas très crédible, mais bon.
Ils ont fini par comprendre que s'il y avait un salaire minimum régi par la loi, pourquoi s'il n'y aurait pas un salaire maximum régi aussi par la loi? Ça s'est entré petit à petit dans les cerveaux.
Voilà, mercredi prochain, pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part bien sûr le film que toute la planète attend en piaffant d'impatience, j'ai nommé Transformers 3, la face cachée de la Lune. Alors avec cette nouvelle aventure des célèbres robots qui peuvent se transformer en Solex ou en Frigidaire, Michael Bay compte bien nous en mettre plein la vue et faire péter un maximum de trucs, dont le box-office. Par contre, je suis désolé d'apprendre aux fans de la série que nous ne verrons pas dans Transformers 3 la face cachée de la Lune de Megan Fox, la belle ayant quitté la série pour aller tortiller sa Lune dans des projets un peu plus intello, comme le prochain film de Judd Apatow. Mais il reste les gros robots et Shia LaBeouf qui devraient malgré tout faire l'affaire. Et pour ceux qui n'aiment pas les robots, vous pourrez vous rabattre sur les blaireaux avec Les Tuches, la nouvelle comédie française de Olivier Barou qui voit une famille de prolos débiles et attachants gagner au loto et partir s'installer à Monaco pour profiter de son argent. Une belle tranche de rigolade à la française dont la sortie est prévue le vendredi 1er juillet et non pas le mercredi précédent. Tout ça pour coller avec le jour du mariage du prince Albert de Monaco. Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté, dévasté nos vies, des vagues en furie qu'on ne peut plus arrêter. Voilà, à vous d'avoir cette chanson dans la tête pour toute la journée. Moi, je l'ai depuis hier. C'est sûr que ça a moins la classe que les bandes originales de Kubrick. Donc passons à la semaine suivante, la semaine du 6 juillet devrait nous apporter quelques morceaux plus intéressants, dont le long métrage du coréen Kim Ji-woon, réalisateur des films Le Bon, la Brute et Le Cinglé, Deux Sœurs et Bittersweet Life. Donc son nouveau film qui s'intitule J'ai rencontré le diable nous raconte l'histoire de Soo Yoon, un agent des services secrets dont la fiancée est enlevée par un serial killer. Lorsque le corps sans vie de la jeune femme est retrouvé, Soo Yoon devient fou de rage et se lance dans une chasse à l'homme qui le transformera profondément. Donc dans la lignée de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook ou de The Chaser de Na Hong-jin, Kim Ji-woon devrait nous proposer un film dur, viscéral et sans concession qui ne laisse pas indemne, à déconseiller bien sûr aux âmes sensibles. Dans un genre très différent, la même semaine, vous pourrez aussi aller découvrir en salle Chico et Rita, un long métrage d'animation réalisé par Fernando Trueba et Javier Mariscal. Ce film vous plongera dans le Cuba des années 50 pour y suivre l'histoire d'amour entre un pianiste et une chanteuse. Pour rappel, Fernando Trueba est un grand amoureux de musique, qu'elle soit afro-cubaine ou sud-américaine, et il a déjà réalisé deux excellents documentaires sur le sujet, Calier 54 en 2000 et Le Miracle de Candéal en 2005. Voilà, espérons que ce film, comme ses précédents, nous fasse à nouveau partager cette passion pour les rythmes dansants de la samba, de la bossa et du jazz. Voilà, quant au film à éviter, je vous laisse choisir pour cette semaine du 6 juillet entre la comédie sentimentale avec Julia Roberts et Tom Hanks, le polar avec Eric Cantona ou le film d'épouvante avec Laetitia Casta. Voilà, on va faire une petite pause et je reviendrai un peu plus tard pour évoquer le reste des sorties de cet été riche en promesses et en désillusions. Mais tout de suite, un dernier extrait de la bande originale d'Orange Mécanique. Quand Beethoven déraille complètement sous les synthétiseurs de Wendy Carlos. Donc c'était le deuxième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, je ne crois pas dire de bêtises, un extrait de la bande originale d'Orange Mécanique. Voilà, dans cette scène, en fait, une des anciennes victimes du personnage d'Alex lui passe du Beethoven alors qu'il a été conditionné à détester Beethoven pendant son séjour en prison et voilà, et pousse donc le personnage au suicide. Une très belle scène, un très grand film à aller voir donc dès aujourd'hui au Diagonale. On va revenir aux sorties de cet été. Déjà dans cette première partie, Marine, est-ce qu'il y a quelques films qui te font envie?
Oui, moi vraiment j'ai rencontré le diable de Kim Jong-un, oui. Celui-là, je vais aller en salle directement pour le voir.
Ouais, c'est vrai que ces films sont... Ouais, j'ai vu Le Bon, la Brute et le Cinglé, qui est assez délirant, voilà. Mais c'est vrai que oui, quand ils se mettent à faire du polar noir, les Sud-Coréens sont quand même très très forts.
Oui, The Chaser, c'était vraiment déjà assez puissant. Et puis là, en plus, il y a Choi Min-sik dedans, donc double raison
voilà,
pour y aller.
Voilà, qui était l'acteur de Old Boy, donc deuxième volet de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Et Les Tuches?
Non.
Alors, on continue avec le mercredi 13 juillet, un jour qui sera marqué d'une pierre blanche comme le jour maudit où tous les enfants du monde et leurs parents diront au revoir les yeux pleins de larmes à Harry Potter. Et oui, le 13 juillet 2011, l'aventure Harry Potter prend fin. Adieu Harry, et merci. Donc pour rappel, les 7 films de la série ont coûté environ 1 milliard 100 millions de dollars et ils ont rapporté pour l'instant environ 6 milliards 370 millions de dollars. De quoi fêter dignement, avec quelques petites bouteilles de champagne et des petits fours au caviar, la fin de ce feuilleton de cinéma qui enflamme la planète depuis maintenant 10 ans. Et pour aller voir cet ultime opus, il vous faudra sortir les lunettes 3D, parce qu'après 10 ans de Harry Potter, ils se sont enfin rendus compte qu'une baguette magique pointée vers les spectateurs, ça rendrait plutôt bien en relief. La semaine du 20 juillet, plusieurs films devraient être intéressants, et en premier lieu Attack the Block de Joe Cornish, qui nous raconte l'invasion par des extraterrestres d'une obscure cité londonienne et la résistance d'un gang d'adolescents plus habitués à fumer des pétards et à zoner dans les cages d'escalier qu'à se friter contre des aliens. Joe Cornish, pour l'instant, n'est pas très connu, mais cela devrait changer sous peu, étant donné qu'il a signé le scénario des aventures de Tintin, le prochain film de Steven Spielberg, attendu avec impatience par le gouvernement belge. Au générique d'Attack the Block, on retrouve Edgar Wright et Nick Frost, respectivement réalisateurs et acteurs de Shaun of the Dead et Hot Fuzz, auxquels Joe Cornish avait d'ailleurs participé en tant que comédien, et qui parodiait déjà des genres très codés du cinéma, en espérant que cette nouvelle comédie anglaise soit aussi réussie que ces deux films. Et pour ceux qui n'ont pas envie de rire, vous pourrez toujours vous rabattre sur The Murderer, le nouveau film de Na Hong-jin, donc réalisateur sud-coréen de The Chaser, dont on parlait tout à l'heure. Dans The Murderer, un homme criblé de dettes accepte de se charger d'un assassinat pour un parrain de la mafia. Un scénario pas très original, mais comme il est accommodé à la sauce coréenne, il pourrait nous réserver quelques grosses surprises. Et pendant la semaine du 27 juillet, vous pourrez aller voir avec votre petit cousin le nouveau Pixar, Cars 2, la suite du moins intéressant des films du studio à la lampe. Et pour les amateurs d'humour, vous aurez le choix entre deux comédies, Bad Teacher, un film américain hilarant avec Cameron Diaz, et Lourdes, un film français hilarant avec Sylvie Testu, dont voici la scène la plus drôle.
Saint-Esprit, Jésus et la Vierge Marie sont assis sur un nuage. Ils font des projets de vacances. Saint-Esprit dit « J'ai une idée, on va à Bethléem ». Jésus dit « Bethléem, non, on y est déjà allé souvent ». Le Saint-Esprit réfléchit et dit « J'ai trouvé ». Allons à Lourdes. La Vierge Marie fait un bond et dit « Ouais, super, j'y suis encore jamais allé ».
Voilà un bel exemple de cet humour français glacé et sophistiqué que l'on adore. Passons tout de suite à la semaine du 3 août. L'événement de cette semaine, c'est bien entendu la sortie en salle des Schtroumpfs, les petits personnages bleus inventés par Peyo qui passent ici à la moulinette hollywoodienne et viennent faire les Schtroumpfs à Manhattan et en 3D, pour le plus grand plaisir des moins de 5 ans et des fans des visiteurs en Amérique. Le 10 août, vous découvrirez enfin comment notre planète est devenue la planète des singes, avec le 8e film de cette franchise consacrée à nos frères, les hominidés à poils longs, La planète des singes, les origines. Donc de toute façon, après la catastrophe réalisée en 2001 par Tim Burton, on ne pourra être qu'agréablement surpris.
Et donc ça va être un reboot, un préquel
Ça va être un préquel, a priori.
Ça va être un préquel,
voilà.
D'accord.
Donc ils ont laissé tomber les humains maquillés en singes pour faire juste des singes en 3D.
Il n'y aura que des singes.
Voilà, ils sont,
pas de Mark
Wahlberg. Ils n'ont pas encore évolué. Non, non, il y a des hommes, mais c'est vraiment les tout débuts quand ils ont commencé à injecter de l'intelligence dans les singes.
D'accord,
voilà,
merci.
Si je ne me trompe pas, c'est Weta qui s'occupe des effets spéciaux, donc la boîte d'effets spéciaux qui avait travaillé sur Le Seigneur des Anneaux, sur King Kong, donc qui ont un passif déjà dans les grands singes. Qu'est-ce que je disais ? La même semaine, vous pourrez aussi aller découvrir le nouveau film de Lars von Trier, Mélancolia, donc toujours le 10 août. Mélancolia, un drame fantastique porté par la jolie Kirsten Dunst, qui devrait nous faire oublier les dérapages du réalisateur au dernier Festival de Cannes. Et oui, quand on ne supporte pas le pastis, il vaut mieux éviter de faire le malin devant les journalistes. Et on en finit avec ce survol des sorties estivales, avec deux films prévus pour le 17 août. Deux films au style diamétralement opposé, puisqu'il s'agit du remake de Conan le Barbare et du nouveau film de Pedro Almodovar, La Piel que Habito. Alors pour illustrer les nouvelles aventures du Cimérien qui a lancé la carrière d'Arnold Schwarzenegger, la barre a été confiée à Marcus Nispel, qui s'était déjà fait remarquer en ressuscitant une autre franchise à succès, Massacre à la tronçonneuse. Pour brandir l'épée, jadis tenue par Schwartzy, Nispel a fait appel à Jason Momoa, un acteur américain, ancien top modèle, remarqué dans la série télé Alerte à Malibu. Voilà, ce qui laisse présager
le
meilleur pour son interprétation. En même temps, Arnold Schwarzenegger n'était pas non plus issu de l'acteur studio quand il tournait Conan le Barbare. Et bon, si on en croit la bande-annonce, le film devrait envoyer du lourd en termes de violence, de gore et de barbarie, tout ce qu'on aime quand on va voir un film Conan, en espérant que le scénario tienne la route et que Jason Momoa ait autant de charisme dans le rôle de Conan qu'en avait son prédécesseur. Voilà, petit extrait de la bande originale de Conan le Barbare, le premier, l'original. Et dans un autre registre, La Piel que Habito, de Pedro Almodovar, nous racontera l'histoire du docteur Robert Ledgard, interprété par Antonio Banderas, un chirurgien esthétique dont la femme meurt dans un accident de voiture. Pour surmonter son chagrin, il se lance à corps perdu dans la recherche d'une peau humaine synthétique, un graal de la médecine qui aurait permis à sa femme de survivre à ses brûlures. Et quand il découvre enfin la bonne formule, il ne lui reste plus qu'à trouver une cobaye sur qui tester cette peau de synthèse particulièrement résistante. Donc pour une fois, Almodovar injecte dans son scénario des éléments empruntés à la science-fiction, faisant de l'œil au cinéma de David Cronenberg. Et d'après ceux qui l'ont vu, le film est réussi et oscille entre le thriller et le drame avec un très joli équilibre. Voilà donc pour ces sorties de cet été. Alors surtout, profitez bien de vos vacances. N'allez pas voir n'importe quoi, c'est essentiel. Et dans cette deuxième partie, quelques films qui t'intéressent, Marine ?
Oui, bien sûr. Le Lars von Trier, évidemment, qu'on attend tous depuis Cannes, et le dernier Almodovar, qui à mon avis sera bien mieux que ses précédents. Justement, je pense que là, il a opéré un changement de style qui va être assez bénéfique. Puis ça a l'air de lorgner un petit peu du côté de Franju. Donc ça m'intrigue de voir ce mélange des deux.
Mais c'est vrai qu'avoir la bande-annonce, on a presque l'impression d'être devant un film de Amenabar.
Qui est, oui, voilà, qui exactement.
Est plus le côté noir, polar, voire fantastique. Ça fait un peu penser à Ouvre les yeux, un film avec Noriega, voilà, qui avait des côtés SF aussi. Mais donc voilà, un film qui risque d'être surprenant et d'être très bien. On touche à la fin de cette émission qui est un peu plus courte aujourd'hui puisque nous ne sommes que deux, Vincent étant en train de...
Avec un cerveau pour deux aussi.
Voilà.
Donc.
Vincent est déjà en vacances, hein. Il est parti sur une plage à Hawaï ou alors il est à l'hôpital en train de cuver.
Oui, non, je crois qu'il est encore sur le trottoir derrière là-bas.
Voilà, après cette fête de la musique, non, nous sommes médisants, mais voilà, il avait plein de choses à faire, il ne pouvait pas être avec nous pour cette dernière émission. Il nous reste à vous souhaiter... de bonnes vacances, cinématographiques ou pas, et à vous donner rendez-vous à la rentrée.
Eh oui.
Voilà. On envoie le générique, et à la fin de ce générique, vous aurez un petit extrait de Délicatessen, film de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. À bientôt, au revoir.
À bientôt, bonnes vacances.
Ça, c'est très embêtant parce que votre ardoise pendant ce temps-là, elle s'allonge. Et encore, je parle pas du loyer. Hein. Ah oui, ben je sais, je suis un peu gêné en ce moment, mais attendez, là j'ai des trucs intéressants. Petit coup d'œil.
Marché noir, quelle époque. Ça c'est vraiment dégueulasse, mon vieux.
Ouais, non, mais regardez. Ouais.
Rigole.
C'est la peau pour les rats. Ça imite le cri de la femelle et ça attire les mâles.
Y'a quoi bon? Y'a même plus de rats. Ça c'est quoi?
Ah, ça, c'est un détecteur de conneries.
Ah ouais?
Allez-y.
Allez-y quoi?
Mais dites une connerie.
Cinérama sur Divergence FM.
Allez! Allez!
Oh, bah ça vient pas comme ça, hein! C'est beau, la vie. Détecteur, mais connerie, oui, mais rangez-moi ce machin! Hein, on s'entend plus!
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.